Le destin du baron de Leisenborg par Arthur Schnitzler. C'est par une tiède soirée de mai que Claire Hyle fit sa rentrée à l'opéra, dans le rôle de reine de la nuit. Personne n'ignorait la raison pour laquelle la cantatrice avait abandonné la scène pendant des mois. Le 15 mars, le duc Richard de Bodenbrück avait été victime d'un accident de cheval et au bout de quelques heures de souffrance pendant lesquelles Claire ne l'avait pas quitté, il avait expiré dans ses bras. Le désespoir de Claire fut tel qu'on craignit pour sa vie d'abord, pour sa raison ensuite, et finalement pour sa vie. Ces dernières craintes, cependant, étaient aussi peu fondées que les premières. Un public aimable, quoique réservé, l'avait accueillie, mais à peine eut-elle chanté le grand air, que ses amis intimes purent recueillir les félicitations chaleureuses des personnes de connaissance. Au haut de la quatrième galerie, la figure pouponne et rouge de la petite Fanny Ringheiser rayonnait de joie en réponse au sourire approbateur et compréhensif que les habitants du poulailler lui adressaient. Personne n'ignorait que Fanny, quoique la fille d'un simple fabricant du faubourg de Vienne, faisait partie du cercle intime de la cantatrice tant appréciée, qu'elle était souvent invitée à prendre le thé chez cette dernière et que, dans le secret de son âme, elle avait aimé le duc. Pendant l'entracte, Fanny raconta à ses amis que le baron de Leisenborg avait conseillé à Claire de choisir ce rôle de reine de la nuit pour reparaître en scène, pensant que le costume sombre s'harmoniserait parfaitement avec l'état d'âme de la cantatrice. Quant à lui, il occupait au premier rang son fauteuil d'orchestre habituel, au coin de l'allée du milieu, et remerciait les amis qui le saluaient d'un sourire aimable, mais presque douloureux. Que de souvenirs l'assaillaient aujourd'hui. Il avait fait la connaissance de Claire 10 ans auparavant. Il s'occupait alors de l'éducation artistique d'une jeune personne très svelte, à chevelure rousse, et assistait à une soirée théâtrale au conservatoire. Tandis que sa jeune protégée débutait dans le rôle de Mignon, il vit et entendit Claire pour la première fois. Elle chantait le rôle de Philine. Il avait alors 25 ans, était indépendant et ne s'embarrassait pas de scrupules. Il ne s'occupa plus de Mignon. À la fin de la représentation, il se fit présenter à Philine, et lui déclara vouloir mettre entre ses mains tant son cœur que sa fortune et ses relations. Claire habitait alors chez sa mère, veuve d'un haut fonctionnaire de l'administration des postes. Éprise d'un jeune étudiant en médecine, elle allait parfois prendre une tasse de thé chez lui ou faire un brin de causette dans sa petite chambre du faubourg. Elle repoussa les fougueuses avances du baron, mais, attendrie par ses hommages, elle devint clémente au jeune étudiant dont elle fut bientôt la maîtresse. Le baron, qu'elle en avertit, s'en fut retrouver sa protégée rousse, sans renoncer toutefois à ses relations avec Claire. À l'automne, Claire, engagée à Detmold, y fit ses débuts. Le baron, attaché alors au ministère, profita de quelques jours de congé pour aller l'y retrouver à Noël. Son espoir renaissait, car il avait appris que l'étudiant, devenu médecin, s'était marié en septembre. Mais Claire, toujours franche, ne tarda pas à lui révéler ses relations de nature tendre avec le ténor du théâtre. Le pauvre baron revint à Vienne, le cœur à peu près brisé. Il mit en mouvement toutes ses relations et n'eut de cesse avant que l'opéra de Vienne ne s'occupât sérieusement de Claire. Le succès qui couronna la représentation d'essai lui valut un engagement définitif. Elle débuta en octobre. Dès la première soirée, elle trouva dans sa loge une magnifique corbeille de fleurs envoyée par le baron. C'était l'expression de tout son amour, de tout son espoir. Pauvre donateur enthousiaste, qui dut apprendre à la sortie qu'une fois de plus il arrivait trop tard. Un blond répétiteur de chants, homme dont les compositions n'étaient pas sans valeur, avait acquis des droits sur Claire durant l'intimité des dernières semaines, et ces droits, elle ne voulait pas les léser. 7 années avaient passé depuis. Le répétiteur de chants s'était trouvé remplacé par Clément de Rodeville, parfait gentilhomme et cavalier intrépide, et celui-ci par Vincent Claudy, chef d'orchestre, qui, en dirigeant un opéra, chantait parfois plus fort que les artistes. Au chef d'orchestre avait succédé le comte d'Alban Rattoni. Jamais Claire n'avait fait un mystère de ses liaisons. Son train de vie était celui d'une bourgeoise, seule la personne du maître de maison Barrier. Le public l'aimait, et en haut lieu, on trouvait de bon ton qu'elle allait à la messe et qu'elle se confessa tous les 15 jours. On savait même qu'elle portait toujours à son cou une médaille de la Vierge bénie par le pape et qu'elle ne se couchait jamais sans faire sa prière. elle était de toutes les ventes de charité, et les dames du monde viennois, tant celles de l'aristocratie que celles de la finance juive, étaient fières et heureuses de se trouver au même comptoir qu'elle. Quand la jeunesse enthousiaste l'attendait à la sortie du théâtre, elle saluait cette foule d'un sourire séduisant et distribuait à pleine main toutes les fleurs qu'elle avait reçues. Une fois, elle les oublia dans sa loge, et s'en apercevant à la sortie, elle s'écria « Bon sang, voilà que j'ai laissé ma salade là-haut. Mes pauvres enfants, je vous invite à venir en chercher les restes dans l'après-midi de demain chez moi. » Parmi les rares personnes qui s'étaient rendues à cette invitation, Fanny avait été une des premières. Claire s'amusa de sa conversation animée, de son jeune enthousiasme. Elle la plaisanta un peu, la questionna d'un air bienveillant sur sa famille, et lui demanda finalement de revenir. Et Fanny revint, elle revint même souvent. Pendant 3 ans, Claire, avec sa fidélité habituelle, avait aimé le duc Richard d'une passion plus profonde que ses prédécesseurs. Aussi le baron, qui malgré ses nombreuses déceptions, n'avait pas abdiqué tout espoir, conçut-il des craintes sérieuses et des doutes sur la réalisation d'un bonheur qu'il attendait depuis 10 ans. Chaque fois qu'il la sentait lasse du favori momentané, il congédiait sa maîtresse pour être prêt le cas échéant. Il fit de même après la mort du duc, par habitude cette fois-ci, plus que par conviction. La douleur de Claire semblait infinie, et chacun la crut dégoûtée à jamais des plaisirs de la vie. Elle se rendait au cimetière pour poser des fleurs sous la tombe du défunt. Elle fit monter au grenier ses robes claires et enferma ses bijoux dans le tiroir le plus caché de son secrétaire. Il avait même fallu toute la force de persuasion de ses amis pour l'empêcher de quitter le théâtre pour toujours. Après cette première reprise dont le succès avait été si vif, la vie de Claire sembla extérieurement, du moins, reprendre sa marche habituelle. Le cercle de ses amis se retrouva chez elle. Il advint que dans la seconde moitié du mois de juin, un artiste scandinave, Sigurd Holse, vint chanter le rôle de Tristan à Vienne. Sa voix était claire et puissante, quoiqu'elle manquât de pureté, sa taille gigantesque, avec une légère tendance à l'embonpoint, et au repos sa figure n'était même pas expressive. Mais quand il chantait, ses yeux grisacés s'allumaient d'une étincelle mystérieuse, et son regard, sa voix, savait enivrer tous les cœurs, ceux des femmes en particulier. Claire était installée dans la loge réservée aux artistes, avec quelques camarades inoccupés comme elle. Seul son visage à elle n'exprimait aucune émotion. Le lendemain matin, Sigurd Holse lui fut présenté dans le bureau du directeur. Elle lui parla aimablement, mais avec réserve, de son succès de la veille. Dans l'après-midi, il vint lui rendre visite sans en avoir été prié. Le baron et Fanny se trouvaient présents. Ils prirent une tasse de thé ensemble. Il parla de ses parents, pêcheur dans un petit port de Norvège, de la miraculeuse découverte de sa voie par un Anglais, dont le yacht blanc avait jeté l'ancre dans le fjord lointain, de sa femme, une Italienne qui était morte pendant leur voyage de noces en plein océan et qui avait trouvé sa sépulture dans les flots. Quand il eut pris congé, un long silence plana sur ses auditeurs. Fanny plongeait un regard obstiné dans sa tasse à thé vide. Claire appuyait pensivement ses 2 bras sur le couvercle du piano auprès duquel elle s'était installée, et le baron réfléchissait, anxieux et muet. Le 26 juin eut lieu la dernière représentation de Tristan. Claire, dans sa loge, ne semblait pas plus émue que de coutume. Le lendemain, elle emmena Fanny au cimetière. Elle déposa une couronne merveilleuse sur la tombe du duc, et le même soir, organisa une fête d'adieu en l'honneur de l'artiste qui devait quitter Vienne le lendemain. Tous ses amis étaient venus au grand complet, et chacun se rendit compte de la profonde passion que Claire avait inspirée au chanteur. Il parla beaucoup et avec agitation selon son habitude. Il raconta, entre autres, que sur le bateau qu'il avait amené, il avait fait la connaissance d'une arabe, mariée à un grand-duc russe, et que celle-ci, qui était chiromancienne, lui avait prédit pour un proche avenir l'époque la plus néfaste de sa vie. Il croyait fermement à cette prophétie, et de fait, la superstition ne semblait pas être chez lui une pause pour se rendre intéressant. Il rappela aussi l'épisode bien connu de sa tournée en Amérique l'année précédente, lorsque, à peine débarqué à New York, et risquant un délit formidable, il s'était fait ramener en Europe parce qu'un chat noir s'était faufilé entre ses jambes. Ce n'était du reste pas sans raison qu'il croyait ce rapport mystérieux entre d'incompréhensibles signes et la destinée humaine. Sa voix ne lui avait-elle pas fait défaut à Londres, au théâtre du Covent Garden, un soir qu'il avait oublié de murmurer une incantation qu'il tenait de sa grand-mère? Il racontait tout cela spontanément, et lorsqu'il fit circuler la lettre d'outre-tombe, écrite sur papier rose à rentelle de la maison Glenwood, l'émotion fut profonde et générale. Claire, seule, ostensiblement distraite, approuvait de temps à autre d'un mouvement de tête indifférent. Malgré cela, l'inquiétude du baron allait croissante, et son œil exercé discernait déjà les avant-coureurs d'un danger imminent. Pendant le dîner, d'abord, le ténor, pris d'une violente sympathie pour lui, comme tous les précédents amants de Claire, l'invita à venir le voir dans sa propriété du fjord de Molde et lui proposa de le tutoyer. Puis le baron s'aperçut que Fanny tremblait de tout son corps chaque fois que Sigurd lui adressait la parole. Elle rougissait et pâlissait tour à tour quand il la fixait de ses grands yeux gris acier, et lorsqu'il parla de son départ prochain, elle éclata en sanglots. Cette fois encore, Claire resta sérieuse, comme figée. Elle répondait à peine au regard ardent de Sigurd. Elle lui parlait comme à tous les autres. Quand, enfin, il lui baisa la main, levant sur elle des yeux qui semblaient à la fois implorer, promettre et désespérer, sa figure resta impassible. Le baron observait tout cela plein de méfiance et de crainte. Cependant, à la fin de la soirée, lorsque l'un après l'autre les invités prirent congé de Claire, il lui arriva quelque chose d'inattendu. Lui ayant tendu la main le dernier, il s'apprêtait à s'en aller lorsqu'il sentit qu'elle le retenait. « Revenez !» murmura-t-elle. Il crut avoir mal compris, mais étreignant la main qu'il lui avait laissée et les lèvres tout près de son oreille, elle répéta « Revenez, je vous attends dans une heure. » Il s'en alla, avec les autres, comme étourdi. Avec Fanny, il raccompagna Sigurd à l'hôtel et l'entendit, comme dans un rêve, divaguer sur les charmes de Claire. Puis, enveloppé de la douce fraîcheur de cette nuit, il ramena Fanny chez elle, observant comme à travers un brouillard les grosses larmes bêtes qui coulaient sur ce visage d'enfant. Enfin, il prit une voiture et se fit arrêter devant la maison de Claire. Il leva les yeux et vit la lumière filtrer à travers les rideaux de sa chambre. Son ombre glissa près de la fenêtre et d'un signe de tête, elle l'invita à monter. Il n'avait pas rêvé, il était attendu. Le lendemain matin, le baron fit une promenade à cheval au Prater. Il se sentait jeune et heureux. La tardive réalisation de son rêve lui semblait cacher un sens secret. Ce qu'il avait vécu cette nuit, tout en ayant été pour lui la plus merveilleuse des surprises, lui paraissait cependant comme la conséquence naturelle, comme le couronnement de ses relations avec Claire. Il se rendait compte que ce moment avait dû, logiquement, arriver et faisait des projets pour l'avenir. « Pendant combien de temps encore fera-t-elle du théâtre » pensa-t-il. « Peut-être pendant 5 ans ?»« C'est à ce moment-là, et pas une minute avant, que je l'épouserai. Nous habiterons la campagne, dans la ravissante banlieue de Vienne. J'achèterai une petite maison, ou encore j'en ferai bâtir une à mon goût. Nous vivrons retirés du monde, mais nous ferons de grands voyages, en Espagne, en Égypte, aux Indes. » Tel était le cours de ses rêves, tandis qu'il accélérait le pas de son cheval à travers les prairies. Il revint au trot par l'allée principale du Prater, et arrivé à la sortie, il reprit sa voiture. Dans le centre de la ville, il se fit arrêter chez Fossati, le grand fleuriste, près de l'opéra, et envoya une superbe gerbe de roses rouges à Claire. Il rentra déjeuner chez lui, seul comme de coutume, et en sortant de table, s'étendit sur sa chaise longue. De toute la force de son être, il désirait Claire. Que lui avaient été les autres femmes? Une distraction, rien de plus. Il sentait que le moment viendrait où Claire, à son tour, lui avouerait que personne n'avait compté avant lui, qu'il était le seul, le premier, qu'elle l'aimât. Le baron s'habilla et prit lentement, comme pour jouir de l'attente, le chemin qu'il connaissait si bien. Il y avait encore beaucoup de promeneurs sur le ring, mais on sentait déjà la fin de la saison. L'Eisenbock fut si heureux de voir arriver l'été où il voyagerait avec elle, où ensemble ils verraient la mer, les montagnes, qu'il eut toutes les peines du monde à ne pas crier sa joie aux passants. Il était arrivé. La lumière du soleil qui se reflétait dans ses fenêtres l'aveuglait presque. Il monta les 2 étages et sonna. Personne ne vint ouvrir. Il sonna encore. Personne n'ouvrit. Soudain, il s'aperçut qu'un cadenas avait été mis à la porte. Que cela signifiait-il? S'était-il trompé? Le nom de l'actrice n'était pas gravé sur sa porte, mais en face, le baron put lire, comme toujours, le nom du locataire voisin. Aucun doute, il se trouvait devant son appartement et cet appartement était fermé. Il descendit en courant et ouvrit précipitamment la loge de la concierge. Une demi-obscurité y régnait. La concierge était assise sur son lit. Un enfant s'amusait à regarder la rue à travers une lucarne souterraine. L'autre soufflait sur un vieux peigne qui rendait un air étrange. « Mademoiselle L. reçoit-elle ? » demanda le baron. La femme se leva. « Non, monsieur le baron, mademoiselle est partie en voyage. »« Hein ?» s'écria le baron. Et il ajouta tout aussitôt. « Naturellement, à 3 heures, n'est-ce pas ?»« Non, monsieur le baron, elle est partie à 8 heures du matin. »« Et pour où ? » « C'est-à-dire, elle est partie directement pour Dresde ?» Il disait n'importe quoi. « Non, monsieur le baron, elle n'a pas laissé d'adresse. Elle a dit qu'elle écrirait. »« Ah oui, oui, naturellement. Je vous remercie. » Il lui tourna le dos et se retrouva dans la rue. Involontairement, il regarda encore une fois cette maison. La réverbération même du soleil lui semblait toute changée. Quelle triste et lourde soirée d'été planait sur la ville. Claire était partie, mais pourquoi ? Elle l'avait fui ? Qu'est-ce que cela signifiait ? Il songeait d'abord à se faire mettre à l'opéra, mais réflexion faite, il y renonça. Les théâtres devaient fermer le surlendemain, et Claire n'avait plus à paraître durant ces 2 derniers jours. Il se fit simplement conduire à l'adresse de Fanny. Une vieille cuisinière vint ouvrir et contempla, pleine de méfiance, ce visiteur élégant. Il demanda à Madame Ringheiser, et avec une émotion qu'il ne pouvait plus contenir, il balbutia. Mademoiselle Fanny est-elle là ? Comment ? Fit sèchement la mère. Il nomma son nom. Pardon, dit-elle alors. Ne voulez-vous pas vous donner la peine d'entrer ? Lui resta dans le vestibule et réitéra sa question. Mademoiselle Fanny n'est-elle pas là ? Veuillez entrer, monsieur le baron. L'Eisenbog dut la suivre et se trouva dans une pièce basse, demi-obscure, avec des fauteuils de velours bleu et des rideaux de reps assortis. Non, dit-elle enfin. Fanny n'est pas là. « Mademoiselle L. l'a emmenée en voyage. »« Où cela ?» s'écria le baron qui fixait obstinément une photographie de Claire dans un mince cadre d'or sur le piano. « Je ne sais pas où, » repartit la mère. « Mademoiselle L. est venue ce matin à 8 heures et m'a si gentiment demandé de lui donner Fanny que je n'ai pas pu refuser. »« Mais pour où ? Pour où ?» demanda le baron d'une voix pressante. « Je ne puis vous le dire. Fanny doit me télégraphier aussitôt que Mademoiselle L. sera décidée, peut-être même demain ou après-demain. » « Vraiment ?» dit le baron en s'affalant sur une chaise de jonc près du piano. Il se tut pendant quelques secondes, puis, se levant soudain, il tendit la main à Madame Ringheiser, s'excusa de l'avoir dérangée, et descendit lentement l'escalier mal éclairé de la vieille maison. Il hochait la tête. Elle avait été prudente, vraiment, bien plus prudente qu'il ne le fallait. Ne connaissait-elle pas sa discrétion ?« Où faut-il aller, monsieur le baron ?» demanda le cocher. L'Eisenbog s'aperçut qu'il était depuis un bon moment dans sa voiture, dont la porte était restée ouverte et qu'il fixait le vide. Cédant à une inspiration soudaine, il répondit « À l'hôtel Bristol ». Sigurd Olsé n'était pas encore parti. Il reçut le baron dans sa chambre et, plein d'une joie exubérante, lui demanda de bien vouloir passer ses dernières soirées avec lui. L'Eisenbog, ému déjà de voir que le ténor n'avait pas quitté Vienne, fut touché aux larmes de son amabilité. L'autre se mit immédiatement à parler de Claire. Il demanda au baron de lui dire tout ce qu'il savait d'elle, puisqu'il était son plus ancien et son plus fidèle ami. Installé sur la grande malle, le baron parla de Claire. Cela le soulageait même de pouvoir en parler. Il raconta presque tout au chanteur, tout en acceptant simplement ce qu'il croyait de son devoir de galant homme de lui cacher. Sigurd l'écoutait ravi. Pendant le dîner, le chanteur invita son ami à quitter Vienne le soir même, et à l'accompagner dans sa propriété de Molde. Le baron se sentit merveilleusement tranquillisé. Il refusa pour le moment, mais promit de venir en été. Puis ils allèrent à la gare. « Tu vas me prendre point fou, » fit Sigurd, « mais je voudrais passer devant sa fenêtre encore une fois. » L'Eisenbog le regarda en dessous. Était-ce un essai de mystification, ou plutôt la preuve éclatante de l'innocence du ténor ? Arrivé devant la maison de Claire, Sigurd envoya un baiser vers la fenêtre fermée. « Rappelle-moi son souvenir, » fit-il. Le baron inclina la tête en signe d'assentiment. « Je le ferai quand elle reviendra. » Sigurd le regarda interdit. « Car elle est partie. » Et montant à bon escient, il ajouta. « Elle est partie ce matin, sans adieu, selon son habitude. »« Partie, » répéta Sigurd, qui tomba dans de profondes réflexions. Ils se taisaient tous les deux. Au départ, ils s'embrassèrent comme deux amis. Durant la nuit qui suivit, Liesenbog, dans son lit, pleura comme du temps de son enfance. De l'heure de volupté qu'il avait goûté avec Claire, il ne lui restait maintenant qu'un souvenir épouvanté. Hier soir, l'éclat même de ses yeux avait dû tenir de la démence. Il comprenait. Trop vite, il avait suivi son appel. L'ombre du duc gardait encore tout pouvoir sur elle, et le baron sentit qu'il n'avait possédé Claire que pour la perdre à tout jamais. Il erra quelques jours dans Vienne sans savoir que faire de ses journées et de ses nuits. Un jour, il reçut une dépêche qu'on lui avait envoyée de Vienne. Il l'ouvrit et lut « Si tu es mon ami, tiens ta parole et accours, car c'est un ami qu'il me faut. » Sigurd Holse. Le baron ne douta pas un instant du rapport qu'il devait y avoir entre cette dépêche et Claire. Il fit ses malles le plus vite possible et quitta Aix, où il se trouvait, par le premier train. Il gagna Munich, Hambourg, et sans interrompre son voyage, prit le bateau qui, passant par Stavanger, devait le conduire à Molde. Il débarqua par une radieuse soirée d'été. Le voyage lui avait paru interminable, et son âme était restée insensible au charme du paysage. Il cherchait en vain depuis quelques jours à se souvenir du son de la voix, des traits du visage de Claire. Il lui semblait avoir quitté Vienne depuis des années, depuis des siècles. Mais quand, sur la rive, il vit Sigurd, avec son complet de flanelle blanche et sa casquette blanche, il le retrouva comme si son adieu avait daté de la veille. Du haut du pont, tout bouleversé qu'il était, il répondit par un sourire aux quelques mots de bienvenue que lui adressa Sigurd, et réussit à franchir la passerelle sans se départir de son calme. « Je te remercie mille fois de t'être rendu à mon appel, » dit le ténor, et il ajouta simplement « C'en est fini de moi. » Le baron le regarda. Sigurd était pâle, sur les tempes, ses cheveux avaient fortement grisonné. Il portait sur son bras un plaid d'un vert mat à reflets. « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui a pu t'arriver ?» demanda le baron avec un sourire figé. « Tu vas tout savoir, » fit Sigurd. Le baron remarqua que sa voix était moins sonore qu'autrefois. Une voiture étroite les menait par une délicieuse avenue qui longeait la mer bleue. Tous deux se taisaient. Liesenbog n'osait pas questionner. Son regard fixait l'eau presque immobile. Il eut l'idée impossible de vouloir compter les vagues. Levant les yeux, il crut voir les étoiles tomber du ciel goutte à goutte. Tout à coup, il se rappela qu'il y avait de par le monde une cantatrice, Claire Hell. Mais ce souvenir lui parut d'une importance secondaire. La voiture s'arrêta brusquement devant une simple maison blanche, dans un enclos de verdure. Ils dînèrent sur une terrasse, d'où l'on découvrait la mer, servie par un domestique à figure sévère. Cette figure parut menaçante au baron quand l'homme lui versa du vin. L'étincelante nuit du nord s'étendait au loin. « Eh bien ?» demanda Liesenbog, qui se sentit envahi soudain par une vague d'impatience. « Je suis un homme perdu, » dit Sigurd, sans lever les yeux. « Que signifie cela ?» demanda le baron d'une voix blanche. Puis il ajouta machinalement « En quoi puis-je t'être utile ?»« Tu ne peux pas faire grand-chose, je ne sais pas encore. » Son œil effleurant la nappe, le parapet de la terrasse, le jardin, la grille, la route et la mer fixaient l'horizon. Liesenbog se sentit l'âme glacée. Plusieurs alternatives se présentèrent à son esprit. Qu'était-il arrivé ? Claire était-elle morte ? Sigurd l'avait-il tuée, jetée à la mer ? Ou était-ce Sigurd qui était mort ? Mais non, c'était impossible puisqu'il était là devant lui. Mais pourquoi ne parlait-il pas ? Pris subitement d'une peur affreuse, il articula péniblement « Où est Claire ?» Le chanteur se tourna lentement vers lui. Sa large figure était comme éclairée par une lumière intérieure. Il semblait sourire. Peut-être aussi était-ce la lune, dont les rayons jouaient sur son visage. Le chanteur fit oui d'un signe de tête. « C'est d'elle en effet qu'il s'agit. Es-tu mon ami ?» Le baron, tout en acquiesçant, sentit un léger frisson. Une brise tiède venait du large. « Je suis ton ami, que me veux-tu » Te souvient-il du soir où nous prîmes congé ? Nous avions dîné ensemble au Bristol, et tu m'avais accompagné à la gare. » Encore une fois, Liesenbog acquiesça. Tu ne te doutais pas alors que Claire, elle, quittait Vienne par le même train que moi. » La tête du baron tomba lourdement sur sa poitrine. « Je ne m'en doutais pas plus que toi, » poursuivit Sigurd. « Je ne la vis que le lendemain quand je descendis déjeuner. Elle était au buffet avec Fanny Ringheiser et prenait son café. Sa conduite me fit croire que notre rencontre était simplement due au hasard. Cela n'était pas. » « Continue, » dit le baron en fixant le plaid qui s'agitait doucement. Elle m'a avoué plus tard que le hasard n'était pas en jeu. Dès ce moment-là, nous ne nous quittâmes plus, Claire, Fanny et moi. Nous nous installâmes au bord d'un de vos ravissants petits lacs autrichiens, où nous habitions une charmante maison à mi-côté entre l'eau et la forêt. Nous étions très heureux. L'Eisenbog crut devenir fou, tant il parlait lentement. « Pourquoi m'a-t-il fait venir ? » pensait-il. « Que me veut-il ? Doit-elle avouer ? » Cela ne le regarde pas. Pourquoi suis-je amoldé sur une terrasse avec un pierrot ? Ne serait-ce pas tout de même un rêve ? Suis-je encore dans les bras de Claire et cette nuit dure-t-elle toujours ? Il écarquait les yeux comme malgré lui. « Me vengeras-tu ? » demanda Sigurd. « Te venger, mais pourquoi ? Que s'est-il passé ? » reprit le baron qui entendait dans le lointain ses propres paroles résonner à ses oreilles. « Parce qu'elle a ruiné ma vie, parce que je suis perdu. » « Décide-toi à parler, » fit le baron d'une voix âpre et dure. « Fanny était avec nous, » poursuivit Sigurd. « C'est une bonne fille, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, c'est une bonne fille, » repartit le baron. Et il revit soudain la pièce demi-obscure avec ses meubles de velours bleu et ses rideaux de reps où il avait parlé à la mère de Fanny. Il devait y avoir des siècles de cela. « Elle est un peu bête, n'est-ce pas ?»« Je crois, » répondit le baron. « Je le sais, » fit l'autre. « Elle ne se doutait pas de notre grand bonheur. » Encore une fois, il se tut. « Continue, » insista le baron qui attendait. Et Sigurd continua. Un matin, Claire dormait comme d'habitude bien avant dans la matinée, tandis que je me promenais dans la forêt. Soudain, derrière moi, j'entendis les pas pressés de Fanny. « Fuyez, monsieur Holze, avant qu'il ne soit trop tard. Partez, car vous êtes en grand danger. » D'abord, chose étrange, elle ne voulut pas m'en dire davantage. J'insistai et j'appris quel était le danger dont elle me croyait menacé. Ah, elle pensait pouvoir me sauver encore, sans quoi elle ne m'aurait rien dit. Le plaid sur la balustrade se gonflait comme une voile. La flamme de la lampe vacillait. « Qu'est-ce que Fanny t'a raconté ?» demanda sévèrement l'Eisenbog. « Te souviens-tu du soir où nous étions tous invités chez Claire ? Eh bien, le matin du même jour, elle avait été au cimetière et sur la tombe du duc avait confié à Fanny l'atroce vérité. » « L'atroce vérité ? » Le baron frémit. « Oui, tu sais comment est mort le duc. Il est tombé de cheval et a survécu à sa chute pendant une heure. Je sais. » Claire seule était auprès de lui. « Je sais. » Il ne voulait voir qu'elle, et sur son lit de mort, il formula une malédiction. « Une malédiction ? » ?»« Oui, une malédiction. »« Claire, » dit-il, « ne m'oublie pas. Je ne t'oublierai jamais. » répondit Claire. « Jure-moi de ne jamais m'oublier. Je le jure. » « Claire, je t'aime, et je vais mourir. »« Qui parle ?» s'écria le baron. « Moi, » dit Sigurd. « Je fais parler Fanny, qui fait parler Claire, qui fait parler le duc. Tu ne saisis pas ?» L'Eisenbog écoutait péniblement. Il lui semblait entendre la voix du duc qui, au travers de son triple cercueil, résonnait dans la nuit. « Claire, je t'aime, et je dois mourir. Tu es si jeune encore, et moi je m'en vais. Et un autre viendra après moi. Je le sais, se lassera. » Un autre t'enlacera de ses bras et il sera heureux. Il ne faut pas. Je ne le veux pas. Je le maudis. Tu entends clair, je le maudis. Que le premier qui après moi touchera tes lèvres, le premier qui étreindra ton corps aille en enfer. Claire, le ciel entend les malédictions des mourants. Prends garde à toi, prends garde à lui. Que la misère et la folie l'assaillent. Et qu'il meure pour aller en enfer, malheur à lui. Sigurd, par la bouche duquel avait retenti la voix du duc défunt, s'était levé. Grand et gras dans son complet de flanelle blanche, il embrassait du regard la nuit claire. De la balustrade, le plaid vert glissa dans le jardin. Le baron gelait, et tout son corps lui semblait glacé. Il aurait voulu crier, mais il ne réussit qu'à ouvrir la bouche. Il se trouvait en ce moment dans la petite salle du conservatoire où il avait vu Claire pour la première fois. Sur la scène, un pierrot récitait « Le duc est mort, cette malédiction à la bouche ». Et écoute encore. Le malheureux qui étreignit Claire de ses bras, l'infortuné sur lequel retombe cette malédiction, c'est moi, moi, moi. À cet instant précis, la scène s'effondra avec un craquement sinistre, et l'Eisenbog la vit disparaître dans les flots. Sa chaise se renversa en arrière, et il tomba par terre comme un mannequin. Sigurd bondit et appela au secours. Deux domestiques accoururent, le relevèrent évanoui, et l'étendirent sur un fauteuil à côté de la table. L'un s'en fut chercher un médecin, l'autre apporta de l'eau et du vinaigre. Sigurd frictionna le front et les tempes du baron qui ne bougeait pas. Arriva alors le médecin qui fit son examen. Ce fut très court, il dit simplement « Ce monsieur est mort. » Sigurd Holse se trouva très ému et pria le médecin de faire le nécessaire. Il quitta la terrasse. Il traversa le salon, monta au premier, entra dans sa chambre, alluma et écrivit en toute hâte « Claire, j'ai trouvé ta dépêche à Molde où j'avais fui sans retard. Je t'avoue que je ne t'avais pas cru. Je pensais que tu voulais me tranquilliser par un mensonge. Pardonne-moi, je ne doute plus. Le baron de Leisenbog est venu me voir. Je l'avais appelé. Je ne lui ai pas posé de questions. En gentleman, il se serait cru obligé de me mentir. Mon idée fut ingénieuse. Je lui communiquai la malédiction du duc. Résultat surprenant. Le baron tomba de sa chaise raide mort. » Sigurd s'arrêta, sérieux, et sembla réfléchir. Se plaçant au milieu de la pièce, il éleva la voix pour chanter. Comme voilée et craintive d'abord, sa voix se gonfla peu à peu et, grandissant à travers la nuit, devint puissante et sonore, comme si les flots en avaient renvoyé l'écho. Un sourire assuré détendit sa figure. Il respira longuement. Puis, s'approchant de son bureau, il compléta sa dépêche par les mots suivants. « Claire aimée, pardonne-moi, tout est au mieux. Attends-moi dans 3 jours. » Ainsi s'achève le destin du baron de Leisenbog par Arthur Schnitzler.